l'heure du dragon. La bannière au lion vacille, s'enfonce dans l'horreur des ténèbres. Un dragon écarlate frémit et s'anime, porté par les vents du destin. Dans leurs armures étincelantes, les chevaliers gisent ensemble, transpercés par les lances meurtrières. Au plus profond des montagnes hantées, des dieux noirs et oubliés s'éveillent. Des mains mortes tâtonnent dans l'obscurité. Les étoiles pâlissent de peur, car c'est là l'heure du dragon, le triomphe de la peur et de la nuit. Chapitre 1. Ô dormeur, réveille-toi. La lueur des longues bougies vacilla, faisant frémir les ombres noires sur les murs. Les tentures de velours ondoyèrent. Pourtant, nul courant d'air n'agitait la pièce. Quatre hommes se tenaient autour d'une table d'ébène sur laquelle était posé un sarcophage vert qui luisait tel du jade ciselé. Chacun d'eux brandissait dans sa main droite une curieuse bougie noire qui dispensait une étrange lueur verdâtre. C'était la nuit, et à l'extérieur un vent perdu gémissait entre les arbres noyés dans l'obscurité. Un silence tendu régnait dans la pièce aux ombres mouvantes. Quatre paires d'yeux fébriles étaient rivés sur ce long cercueil vert. Les hiéroglyphes du sarcophage semblaient se contorsionner, comme si la lumière vacillante leur prêtait vie. L'homme qui se tenait au pied du sarcophage se pencha sur celui-ci, inscrivant des signes dans l'air avec sa bougie, comme s'il écrivait quelques symboles mystiques. Il reposa ensuite la bougie dans son chandelier d'or noir, au pied du sarcophage et, marmonnant quelque incantation inintelligible pour ses compagnons, glissa une main large et blanche dans sa robe bordée d'hermine. Lorsqu'il la ressortit, ce fut comme s'il tenait dans le creux de sa main une boule de feu vivant. Ses trois compagnons retinrent soudain leur souffle, et celui qui se tenait à la tête du sarcophage, un homme robuste à la peau mate, chuchota « Le cœur d'Ahriman ». L'homme, à la robe garnie d'hermine, leva immédiatement la main, réclamant ainsi le silence. Quelque part, un chien hurla lugubrement. Un bruit de pas furtif retentit de l'autre côté de la porte verrouillée et barrée. Pas un ne détourna le regard du sarcophage, au-dessus duquel l'homme à la robe à l'hermine déplaçait la grande gemme flamboyante, tout en murmurant une incantation déjà ancienne quand les océans engloutirent l'Atlantide. L'éclat du joyau heurtait leurs yeux, et ils ne furent pas certains de ce qu'ils virent. Comme si une formidable poussée était exercée de l'intérieur, le couvercle sculpté du sarcophage céda et fut projeté au sol dans un fracas épouvantable. Les quatre hommes se penchèrent en hâte et découvrirent ce qui gisait à l'intérieur. Une forme rabougrie racornie, recroquevillée sur elle-même, dont les membres bruns, encore visibles sous les bandages en décomposition, étaient secs comme du bois mort. « Ramener cette chose à la vie ?» murmura le petit homme au teint mat qui se tenait sur la droite, en accompagnant ses propos d'un éclat de rire narquois. « Cette chose tombera en poussière à la seconde où nous la toucherons. Nous sommes des imbéciles. »«
Chut !»
siffla impérieusement l'homme à forte carrure qui tenait le joyau dans sa main. Son front blanc et large dégoulinait de sueur, et ses yeux étaient dilatés. Il se pencha en avant et, sans toucher la momie, déposa la gemme flamboyante sur la poitrine de celle-ci. Il se recula et contempla la scène avec une intensité fiévreuse, tandis que ses lèvres remuaient en une invocation muette. C'était comme si un globe de feu vivant flamboyait et brûlait sur cette poitrine morte et flétrie. Les quatre hommes serrèrent les dents et leur respiration se fit sifflement. Une horrible transmutation s'accomplissait sous leurs yeux. La forme flétrie du sarcophage commençait à prendre du volume, à croître et s'allonger. Les bandages se rompirent et tombèrent, se réduisant en une poussière marron. Les membres ratatinés enflèrent et se raidirent. Leur teinte cuivrée commença à s'estomper.
« Par Mitra !» murmura le grand homme blond qui se tenait sur la gauche. « Ce n'était pas un stygien. Cette portion de l'histoire était vraie au moins. »
De nouveau, un doigt tremblant exigea le silence. À l'extérieur, le chien avait cessé de hurler. Il gémit comme en proie à un cauchemar, puis ce fut de nouveau le silence. L'homme aux cheveux blonds entendit alors distinctement la lourde porte ployée, comme soumise à une formidable pression depuis l'extérieur. Il fit mine de porter la main à son épée, mais l'homme à la robe bordée d'hermine l'interpella vivement.
Reste ici. Ne brise pas la chaîne, et sur ta vie, ne va pas à la porte. »
L'homme aux cheveux blonds haussa les épaules et reprit sa position initiale. Il resta cloué sur place et ouvrit de grands yeux.
C'était un homme vivant qui gisait dans le sarcophage. Un homme robuste, de grande taille, entièrement nu, dont la peau blanche contrastait avec ses cheveux et sa barbe foncée. Il était immobile et ses yeux grands ouverts semblaient vides et inexpressifs, comme ceux d'un nouveau-né.
Sur sa poitrine, la grande gemme vibrait d'un feu sombre, lançant des éclairs étincelants.
L'homme, à la robe à l'hermine, vacilla, comme sous le contre-coup d'une tension trop longtemps accumulée.
« Ishtar !» s'exclama-t-il.
« Xaltotun ! Et il est en vie ! Valerius, Tarascus, Amalric !
Voyez-vous !
Voyez-vous, vous doutiez de moi, mais je n'ai pas échoué. Nous étions à proximité des portes béantes de l'enfer ce soir, et les formes des ténèbres se sont rapprochées très près de nous. Elles ont poursuivi cet homme-là jusqu'à la porte de cette pièce, mais nous avons réussi à ramener le grand magicien à la vie.
Et condamner nos âmes à un purgatoire éternel au passage, je n'en doute pas, murmura le petit homme au teint mat, Tarascus.
L'homme aux cheveux blonds, Valerius, eut un rire cruel.
Quel purgatoire pourrait être pire que la vie? Nous sommes tous damnés depuis le jour de notre naissance. De plus, qui ne vendrait son âme misérable en échange d'un trône?
Son regard est vide et inexpressif, Orastes, indiqua le plus robuste d'entre eux.
Il est mort depuis longtemps, rétorqua Orastes. Il est comme quelqu'un qui vient de se réveiller. Son esprit est vide après le grand sommeil. Que dis-je?
Il était mort, pas endormi. Nous avons ramené son esprit par-delà les abîmes et les gouffres de la nuit et de l'oubli. Je vais lui parler.
Il se pencha sur le sarcophage et posa son regard sur les grands yeux sombres de l'homme qui gisait à l'intérieur. Puis il dit lentement
« Réveille-toi, Xaltotun !»
Les lèvres de l'homme remuèrent machinalement.
« Xaltotun !»
murmura-t-il avec difficulté après Orastes.
« C'est toi, Xaltotun !»
s'exclama Orastes tel un hypnotiseur cherchant à convaincre son sujet.
« Tu es Xaltotun de Python, en Achéron !»
Une lueur fugitive passa au fond des yeux noirs.
« J'étais Xaltotun !»
murmura-t-il.
« Je suis mort !»«
Tu es Xaltotun !» s'écria Orastes. « Tu n'es pas mort, tu vis !»
« Je suis Xaltotun !»
répondit l'autre en un sinistre murmure.
« Mais je suis mort !» Dans ma maison de Kémy en Stygie, c'est là que je suis mort.
Les prêtres qui t'ont empoisonné ont momifié ton corps grâce à leurs arts maléfiques, laissant intacts tous tes organes, s'exclama Orastes. Mais désormais tu vis à nouveau. Le cœur d'Ariman t'a rendu la vie et a rappelé ton esprit par-delà l'espace et l'éternité.
Le cœur d'Ariman.
La lueur au fond des yeux se fit plus vive, comme les souvenirs remontaient à la surface.
« Les barbares me l'ont volé. »«
Il se souvient, »
murmura Orastes. « Sortez-le du sarcophage. »
Les autres obéirent à contre-cœur, comme s'ils étaient réticents à toucher un homme qu'ils venaient de recréer. Et ils ne parurent pas plus à leur aise lorsqu'ils sentirent la chair ferme et musclée, vibrante de vie sous leurs doigts.